marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Ce qu'il vous faudrait, c'est un type énergique, un mec qui prenne en main vos intérêts.
Ouais, mais c'est pas facile à trouver un type comme ça.
Les leaders inattendus, les auto-leaders.
Allez, on va pas se laisser faire, hein.
Parfaitement.
Vous savez ce que je dis, moi? Je dis que César ne serait pas un loup si les Romains n'étaient pas des agneaux. Je dis que César ne serait pas un lion si les Romains n'étaient pas des biches.
C'est pas con ce que tu dis. C'est pas con ce qu'il dit.
C'est pas con ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit d'autre?
Ah, c'est pas con ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis d'autre?
Et je dis qu'on aurait profité que César est là pour lui faire savoir qu'on en a marre.
Oui.
Il faut désigner un responsable. Un homme à poigne, qui a pas froid aux yeux et qui va aller lui dire. Qu'on en a gros sur la patate.
Les médias, comme les élus, restent encore déconcertés par ce mouvement qui ne veut ni ne peut désigner depuis plusieurs semaines des leaders. Pas de porte-parole, la priorité c'est de porter des paroles. Le mot leader lui-même est inapproprié. Une première étude sociologique relayée par Le Monde indiquait que les gilets jaunes étaient dans leur immense majorité des primo-manifestants. Rarement formés à l'action collective, ils l'ont en revanche été au vocabulaire de la dépolitisation. Nous payons un long cycle où nous avons, les uns et les autres, fait peu à peu sécession de la société, et les nantis les premiers. Persuadés que les pauvres, décidément, n'entendaient rien au monde qui change, ils se sont installés tranquillement dans leurs réserves. Quartiers ségrégés, écoles distinguées, loisirs sélectifs, etc. Emmanuel Lévinas disait que les besoins matériels des plus démunis devaient devenir pour les privilégiés des besoins spirituels. C'est une pensée qui a inspiré la politisation, on disait parfois la conscientisation, de plusieurs générations issues des élites. Dites autrement, elle peut être traduite par un bon vieux proverbe, « Une marmite, ça chauffe pas par le couvercle, ça chauffe par le fond ». La repolitisation par le bas, telle qu'elle est vécue avec ses moments divers sur les ronds-points, sera un processus long.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Alors, je vous propose aujourd'hui quatre portraits de leaders inattendus que les circonstances d'un moment et aussi leur talent particulier ont produit. Et d'abord, dans les premières années du XXe siècle, une femme. Les femmes, cet hiver, constituent la moitié peut-être des gilets jaunes. Leur présence était beaucoup plus exceptionnelle en 1905 ou 1906. Dans le département de l'Isère, à Vizille, Lucie Beau était alors ouvrière en soie. C'était un milieu très particulier, avec des sous-traitants dans les vallées alentours et dans les villes, des usines-internats. L'historienne Michel Perrault, qui, il y a longtemps, avait vu apparaître Lucie fugitivement dans les archives, a tenté de faire sa biographie en 2012. On sait que Lucie est veuve, avec deux filles, quand elle se retrouve au premier rang dans deux grèves en 1905-1906. On a d'elle un récit où le « je » est d'abord un « nous ». Elle s'y présente comme un appui pour le camarade Oda, qu'elle admire beaucoup.
Pour tenir, il faut organiser la solidarité. Une grève, c'est tactique, ça se pense.
Mais justement, je me disais qu'on pouvait réunir toutes nos provisions et faire tourner une cantine. J'ai vu dans l'almanach que ça s'était fait à Melun et à Tours.
Faudrait mobiliser les ouvrières des usines voisines, Freshka et les autres.
Mais il faudrait qu'elles suivent.
Elles sont syndiquées?
Très peu.
Je vais m'en occuper. Je vais aussi rédiger un tract qu'il va falloir distribuer et coller un peu partout en ville.
À Vizille, vous allez être reçus. Les commerçants, ils sont pour les patrons.
Ils sont peut-être pour les patrons, mais sans vous pour les faire vivre, ils sont rien.
Et aussi les Italiennes. Elles crèvent de faim et de grâce. Il y en a une qui est tellement malade qu'elle est réduite à manger du pain trempé dans du vinaigre.
Je baragouine un peu l'italien, ça devrait coller. J'espère qu'elles m'écouteront.
Il n'y a pas de fromage?
Non, pas aujourd'hui. Finis ton assiette.
Camarades, frères et sœurs de travail, devrons-nous rentrer en esclaves dans le bagne capitaliste? J'aime autant ne pas savoir qui est l'auteur de cet écrit séditieux qui, sous les murs de Vizille, la justice saura le connaître. Ah, je vois que les dons sont adressés à une camarade veuve, beau, secrétaire d'Isru Jadu Avizi. Qui est cette veuve, beau, camarade et secrétaire? Mystère.
C'est moi.
C'est vous?
Vous connaissez nos revendications. 1. Maintien des salaires, aussi faibles soient-ils. 2. Réintégration de tout le personnel. Et 3. Reconnaissance de notre syndicat. Je pense que vous avez eu le temps d'y réfléchir.
Vous croyez que je n'ai que ça à faire?
Cela fait près de 30 jours que nous sommes en grève. Ni la misère, ni les menaces de vos chiens de garde ne nous font peur. Nous ne céderons pas sur les tarifs que vous voulez nous imposer.
Vous voulez ma ruine?
Le livre de Michel Perrault sur Lucie Beau a suggéré un film à Gérard Mordillat. Lucie, par l'intercession de la grève, y devient une manière d'héroïne. L'héroïne, c'est celle qui déroge à l'ordre traditionnel des sexes. Les dirigeants ouvriers vont lui faire une place.
Camarade, j'aimerais que la camarade Lucie Beau me rejoigne. J'ai une annonce à vous faire. D'abord, je voudrais saluer en Lucie Beau la mère de famille, qui, malgré les critiques, a su maintenir haut et ferme le prestige de l'action syndicale. Bravo. De la part de nous tous. Des roses rouges. J'ai jamais pu sentir les jaunes.
Une note en passant, si les rouges détestent le jaune, c'est que c'est alors la couleur choisie par un syndicat financé par le patronat, considéré comme traître. Il a fallu que l'histoire du mouvement ouvrier passe complètement à la trappe pour que la couleur jaune puisse redevenir populaire aujourd'hui.
Je propose que nous déléguions la camarade Lucie Beau au congrès national de l'industrie textile qui doit se tenir à Reims. Que ceux qui sont pour lèvent la main. Il y a des contre? Voilà un vote comme je les aime. Tu es officiellement notre délégué au Congrès.
Camarade, s'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît, camarade. Camarade, merci. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à tous, et tout particulièrement à la citoyenne Lucie Beau, à qui je demande de venir à la tribune. La citoyenne Lucie Beau, qui vient de très loin pour assister aux travaux du Congrès et qui représente ici les ouvrières des soieries de Vizil et de Voiron.
Merci, camarade. Au nom des tisseuses de Vizil et Voiron, je veux que l'on songe à l'exploitation qui sévit dans ces bagnes. Défense de s'absenter, sauf cas extrêmement grave. Défense de parler. C'est à l'action syndicaliste qu'il appartient d'avoir raison des exigences patronales. Ces salauds ont tenté de nous briser par la faim.
Merci, camarade. Merci, camarade, mais il y a un ordre de parole à respecter. Si tu veux bien t'asseoir.
Voici Lucie Beau, leader inattendu, jetée dans le chaudron et se retrouve au milieu d'une lutte politique entre ceux qui sont partisans de l'indépendance du syndicalisme et des appareils d'extrême gauche. On sait que Lucie Beau tentera de se suicider en septembre 1906. Sa trace se perdra, on ne la retrouvera que quelques années plus tard. Elle va mourir dès avant la Grande Guerre. On ne sait comment elle a survécu jusque-là. Le film de Mordillat, comme le livre de Michel Perrault, s'appelle « Mélancolie ouvrière ». Il fait l'objet de projections militantes jusque dans les villages de la France des Gilets jaunes. Deuxième figure de notre galerie, figure exactement contemporaine, un homme, et quel homme, barbe blanche, verbe fleuri, c'est Marcelin Albert. Nous sommes en 1907. Il est cafetier, vigneron, à Argeliers, dans l'Aude. Depuis un moment, le vin du Languedoc se vend de moins en moins. Il est concurrencé par les productions venues d'Espagne, d'Italie, quand c'est pas d'Algérie française. Le gouvernement a autorisé en 1903 ces vins de l'étranger à être chaptalisés, ce qui les rend encore plus redoutables face aux vins méridionaux. Les vignerons de l'Aude et de l'Hérault réclament l'abrogation de la loi de 1903, une taxation sur le sucre, mais en vain, parce que l'homme fort du gouvernement, c'est alors Georges Clémenceau, ne veut rien savoir. Sur place, un autoleader s'impose peu à peu.
Non seulement le gouvernement de monsieur Clémenceau continue à nous ignorer, en laissant sans réponse toutes les pétitions, toutes les suppliques que nous lui avons adressées. Mais encore, il se fout de nous. Monsieur le ministre Caillot a déclaré la semaine dernière « Tout ça, c'est du bâtard. Que nous veulent-ils, tous ces braillards ?» Ce que nous voulons, monsieur Caillot, ce que nous demandons, monsieur Clémenceau, c'est d'abord l'abrogation d'une loi scélérate qui favorise la fraude, qui autorise la vente d'un vin artificiel au détriment du vin naturel. Ce que nous exigeons, monsieur Clémenceau, c'est notre simple droit de vivre. Pour obtenir ce droit, nous irons jusqu'au bout.
Qui est-ce qui nous dit que Marcelin Albert n'est pas manœuvré par des gros bonnets politiques?
Moi, je le dis.
Et qu'est-ce que tu en sais?
Ce que j'ai vu à Argelier suffit pour m'en persuader. Marcelin Albert, Rivérol. Il a en lui quelque chose de pur qui fait qu'il ne peut ressembler à aucun homme politique. Marcelin Albert, c'est un vigneron, comme nous. Un honnête homme qui cultive sa vigne et qui se bat au jour le jour contre le gel, contre la grêle, contre la sécheresse, contre le mildiou, contre la mévente du vin, contre le sucrage et contre les fraudeurs. Un honnête homme comme toi, Rivérol, comme vous, monsieur Trousselier, comme nous tous ici, qui tout d'un coup, dans son village, interrompt la partie de cartes, monte sur une table et crie « Réveillez-vous !» Et la grande surprise, c'est qu'aussitôt, les joueurs de manille s'arrêtent au beau milieu de la partie, que les joueurs de boules s'arrêtent de jouer aux boules, et que les femmes, tout d'un coup, s'essuient leurs mains à leur tablier, et que tous, du plus jeune au plus vieux, se rassemblent autour de cet apôtre, autour de cet archange vigneron qui les appelle à la révolte. Et à partir de lui, à partir de l'appel qu'il lance, 30, 40, 50 comités surgissent dans les Corbières, dans le Minervois, dans tous les villages de l'Aude. C'est le moment ou jamais de créer nous aussi un comité de défense viticole, identique à celui d'Argelier, c'est en étroite collaboration avec Marcelin Albert.
Le téléfilm d'Alain Quercy dont on entend un extrait montre les foules qui grossissent autour du prêcheur des platanes. Clémenceau en appelle au sentiment républicain des maires, tiens. Mais à l'époque, il en appelle aussi à la troupe. 25 000 fantassins, 8 500 cavaliers qui donnent aux préfectures et aux sous-préfectures du Midi l'allure de villes occupées. Le 19 et le 20 juin 1906, on va relever 7 morts parmi les manifestants. Les soldats du 17e régiment d'infanterie se mutinent, rejoignent Béziers, qu'ils tiennent un moment. Les porte-paroles des mécontents vont être arrêtés, mais pas Marcelin Albert, qui, pris d'une inspiration subite, s'en va de son propre chef, taper à l'huis de la place Beauvau et demander à être reçu par Clémenceau. On ne dispose pas de la transcription de l'entretien, il aurait pu peut-être se dérouler comme suit.
Je suis sûr que vous êtes un honnête homme. Vous dites que vous êtes républicain. Prouvez-le. Essayez de réunir dans les principales villes du Midi les maires, les conseillers municipaux, et proposez-leur de revenir à la légalité. Quand tout sera rentré dans l'ordre, je ferai revenir les troupes.
J'essaierai de les convaincre, mais je doute d'y parvenir.
Eh bien, vous aurez fait votre devoir. Alors, qu'attendez-vous?
Je n'ai pas d'argent pour reprendre mon train.
Tenez, voilà 100 francs.
Alors pendant que Marcelin Albert est dans le train, muni de son billet par Clémenceau, celui-ci s'empresse de donner à la presse sa version de l'entrevue. À l'entendre, le malheureux Marcelin aurait pleuré dans son giron, il mériterait son surnom de fou d'Argelier. Inutile de dire qu'aucun comité d'accueil ne viendra féliciter Marcelin Albert quand il arrivera en gare à son retour. Le leader inattendu a vite fait d'être déconsidéré. Puis à l'époque, il n'y a pas de magnétophone ou de caméra pour enregistrer, comme le revendiquent aujourd'hui les billets jaunes, les gilets jaunes, les rendez-vous avec les autorités. Pas de gare, pas de train non plus, vraiment, dans ce mouvement. Tout se passe sur les ronds-points. 85% des gilets jaunes ont une voiture, même si elle n'est pas du dernier cri. Et ils sont installés, donc, dans ces endroits un peu incertains qui ont remplacé les places publiques dévitaminées des villes petites et moyennes. C'est une idée de génie, parce que s'il y a bien des lieux qui témoignent de l'obscurité des décisions des collectivités publiques et du mauvais usage des dépenses publiques, ce sont bien les ronds-points, ce sont nos arènes. Vous avez remarqué, nous venons de dépasser 2h moins le quart.
Approche. Assieds-toi. Renseignements généraux. Bénur Marcel, 32 ans, garagiste, président de l'Union des commerçants. Un mouvement révolutionnaire ?
Non, mon humble consul, c'est une association de commerçants, qu'on fait des quinzaines commerciales, on donne des primes, on fait petites fêtes, quoi.
On me signale que tu te rebelles contre l'autorité, que tu tiens des propos séditieux, que tu critiques l'Empire et que tu n'hésites pas à t'en prendre à César lui-même, exact ?
C'est juste une fois, mais ça m'a poussé, puis j'ai...
Ne t'excuse pas. Ça me plaît. J'ai besoin d'un homme comme toi.
Ah bon ?
Tu n'ignores pas qu'on ne cesse de comploter contre César ?
C'est-à-dire, moi je suis dans le commerce, alors on entend parler les gens, vous voyez ? Alors, il y a ceux qui disent, tiens, César, on devrait le virer à grand coup de pompe dans le cul, ou... Alors, et si on le crucifiait, tout ça, ou alors on l'a qu'à l'asseoir sur une pyramide. Mais des vrais complots, vraiment, un vrai complot, j'ai pas entendu parler.
Eh bien, tu vas m'en organiser un.
Un complot ?
Tu vas réunir ton groupe de commerçants.
Oui.
Et vous allez me mettre au point une bonne petite conspiration.
Une conspiration ?
Contre César.
Ah oui. Ah ben non. Ça m'intéresse pas, ça. Non, vous voyez, ça, c'est pas mon truc, alors. Rigoler dans les bistrots avec les copains, dire des conneries. César, il a une tête de cul, quand il tousse, on dirait qu'il pète. Bon, mais ça, c'est... Mais sans ça, vraiment, des conspirations, ah non. Puis vous, dans la police, vous devez avoir des gens spécialisés, ça leur fera plaisir, en plus, hein. Tandis que nous, on est des amateurs, on va vous retarder.
Je crois avoir oublié de te dire que tu n'avais pas le choix.
Ah oui ?
Oui, c'est ça. Ou alors dimanche, dans l'arène avec Lucien.
Ah oui, alors comme ça, voilà, je vais me débrouiller. Très bien.
Si j'ose me permettre, mon bon consul, nous savons que les conspirateurs se réunissent la nuit dans les catacombes. Alors si notre bon ami, Benur Marcel, pouvait prendre contact avec eux...
Pas bête. Tu vas te rendre dans les catacombes et t'infiltrer dans les mouvements terroristes. Alors dans quelques jours, tu viendras rendre compte et nous aviserons.
Ah bon ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Sur France Inter.
Les autolideurs aujourd'hui, avant-dernier personnage de cette galerie assez hétéroclite de leaders inattendus, deux leaders qui restent cabrés pour ne pas se laisser absorber. Voici Xavier Mathieu. En 2009, il était l'un des leaders des ouvriers de Continental qui refusaient la fermeture de leur usine dans l'Oise pour cause de délocalisation. Au bout d'un moment, ils avaient désespéré de pouvoir renverser la vapeur.
Et alors ? C'est pas vrai.
On a été poussés, les gars.
Des douches froides et la colère. Les salariés de Continental s'étaient installés à la sous-préfecture de Compiègne en attendant la décision de justice. Ils espéraient une suspension du plan social pour délit d'entrave. Le tribunal les a déboutés.
Ça veut dire qu'on a perdu. On a perdu à Sarreguemines. La direction, elle a gagné.
Ils passent d'un bureau à l'autre de la sous-préfecture et saccagent tout de leur passage. Dépités, écœurés, ils repartent vers leur usine de Clairoy.
S'ils ne comprennent pas, ça fait 5 semaines qu'on se retient, qu'on est gentil, qu'on dit rien. Aujourd'hui, c'est terminé. Ils ont eu les moutons et maintenant ils ont les lions.
On y va. On y va.
Faites-vous plaisir.
Cette fois, c'est le bureau d'accueil de l'usine qui est mis à sac.
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences?
Vous plaisantez, j'espère.
Je vous pose
la
question.
On ne regrette rien, ça va... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs, à côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter.
Pour vous, la fin justifie les moyens.
Mais attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. Oui, je ne regrette rien, personne ne regrette rien ici, parce que vous n'avez pas vu des casseurs, vous avez vu des gens en colère, des gens déterminés, des gens qui veulent pas aller se faire démonter, crever, on veut pas crever, on ira jusqu'au bout de notre bagarre. On a tenu 5 semaines, pendant 5 semaines j'ai réussi, on a réussi à retenir les gens, c'est fini, les gens ils n'en veulent plus.
Xavier
Et
Mathieu,
aujourd'hui on se rend compte...
On entend votre colère. Mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir?
Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère et la colère, faut qu'elle s'exprime. Il y a un proverbe dans les manifestations qui dit « Qui sème la misère récolte la colère ». C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligées de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça.
Merci, monsieur Mathieu.
On ne veut pas crever.
Repéré par Cédric Clapiche, Xavier Mathieu est entré peu à peu dans le métier du cinéma. Il est devenu comédien à part entière. On sait qu'un autre leader, Édouard Martin, lui est devenu député européen. Il est moins souvent convié sur les plateaux peut-être que Xavier Mathieu. Il est vrai que le souci dans les médias, c'est pas de constituer un public, c'est de booster une audience. Alors Xavier Mathieu, par sa présence virile, y parvient à merveille.
Macron, tout en mettant la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, a annoncé qu'il allait mettre un verre dans la cruche. Et aujourd'hui, Macron n'a simplement fait une chose, c'est de dire « la goutte d'eau qui est tombée, je ne vais pas la remettre, et le verre non plus ». Mais n'oubliez pas que la cruche, elle est toujours pleine, que les gens, ils en ont par-dessus la tête, et qu'il va falloir en vider une bonne partie de la cruche. Et plus vous allez gagner du temps, plus vous allez essayer de prendre les gens pour des cons, et plus les exigences, elles seront grandes. Parce que si au bout de 3 jours, vous aviez annoncé ce que vous annoncez aujourd'hui, il n'y aurait plus personne dans la rue. Et plus vous allez attendre, pire ça va être. Plus les gens vont penser que vous les prenez pour des cons, et plus ils auront plus envie de lâcher. Et vous savez comment ça va finir? Ça va finir que oui, Macron va dégager, il va falloir qu'il vire cette Assemblée nationale, qui ne respecte même pas,
Nicolas
ne
Bétou,
respecte même pas
merci,
ses élus.
Merci Xavier Mathieu, pas. On voit bien que vous êtes comédien aujourd'hui. Nicolas Bétou.
C'est rapport, gentil,
attendez, attendez, quel rapport?
Parce que vous avez beaucoup de passion, et vous avez beaucoup de passion, et beaucoup d'éloquence, et beaucoup de talent.
Quel rapport avec le
comédien? Et beaucoup de talent dans la communication.
Ça fait 10 ans que je fais des débats télé. Quel rapport avec le comédien?
Au moment du comédien, on voit plutôt qu'il a vraiment été conseillé par la question.
Madame Écrière, vous ne me prendrez pas de haut. Vous ne me prendrez pas de haut.
Vous êtes moqué,
s'il vous plaît.
Mais non.
Vous ne me prendrez pas de haut. Vous l'avez fait pendant 2 heures avec les gens qui étaient en face de vous. Ouais, sans arrêt. Le mépris de classe, il a été des deux côtés des ministres et du vôtre en même temps.
Le dernier personnage de notre série, c'est aussi un comédien, signe des temps. On entendait Coluche il y a un instant. Il serait presque parvenu à ses fins si... C'est l'Italien, Beppe Grillo, bien sûr. Dans les années 1980, on le comparait au dit Coluche. Il défendait aussi bien les traitements alternatifs à la médecine dite officielle que la cause de l'environnement contre le développement capitaliste. Il était impossible de classer à droite comme à gauche. Il considérait d'ailleurs comme des voleurs tous les politiciens. L'emploi de ce mot révèle beaucoup de choses, plutôt que l'emploi du mot homme politique. Beppe Grillo, alors, était technophobe. On l'a même vu détruire un ordinateur sur la scène dans un de ses spectacles jusqu'à ce qu'un geek, un jour, vienne l'ensorceler.
La politique a dit quelque chose.
Je ne me sens plus représenté par personne, ni à droite, ni à gauche.
Beppe Grillo, c'est sur le net qu'on l'a pendant longtemps rencontré le mieux. Plus ou moins explicitement interdit des antennes de la RAI et de Mediaset, le groupe de Silvio Berlusconi, le comique a d'abord utilisé à plein les nouveaux médias pour constituer son réseau. Avant de le faire exploser au grand jour, c'était le 8 septembre dernier à Bologne, Turin et dans plus d'une centaine de villes sous la forme du V provocateur d'un premier jour J, ou plutôt un V-Day.
En distribuant des tracts pour faire la promotion de ce Wooday, on s'aperçoit que les personnes qui sont déjà au courant sont des internautes. Les gens qui s'informent seulement par la télévision ne savent pas que Grillo vient ici vendredi.
Ce théâtre à ciel ouvert en construction cette semaine au cœur de Turin n'a donc pas seulement vocation à mettre en vedette le comique et ses amis. Il doit permettre de recueillir des signatures pour faire aboutir une proposition de loi d'initiative populaire. La suppression de l'ordre des journalistes, la fin des financements publics à l'édition, autant de verrous à faire sauter pour en finir avec le règne du tous copains entre journalistes et politiques.
Ils l'attendent par milliers parce que dedans il y a Beppe Grillo. Comique longtemps star des soirées de la RAI, reconverti en politique et en campagne pour les législatives. Il fait le tour du pays pour présenter ses candidats avec un message simple. Les politiques sont tous pourris.
On les renvoie tous. Tous les politiques se sont discrédités.
Et il faut les remplacer par ce qu'il appelle des gens normaux.
Alors le geek qui va ensorceler Beppe Grillo, c'est Casaleggio. Maintenant remplacé, Casaleggio est décédé par son fils. Casaleggio a imaginé une plateforme contrôlée en fait par sa société. C'est une entreprise privée dont il détient les algorithmes. Cette plateforme porte le nom de Jean-Jacques Rousseau. Beppe Grillo, en fait, c'est un batteur d'estrade dont l'estrade est une boîte noire. Et finalement, sa marginalisation, on le sait, s'est produite peu à peu. La boîte noire a préféré un homme ordinaire, parfaitement interchangeable, qui s'appelle Di Maio. Après un dernier succès aux législatives, on disait que Di Maio avait le choix entre une alliance avec le centre droit, une autre avec l'extrême droite. C'est celle-ci qui a été préférée, on ne sait par qui. On voit le résultat, la Ligue du Nord d'extrême droite dirige aujourd'hui de fait l'Italie. Exemple italien qui donne à réfléchir parce que leur base borde toujours les autolideurs qui sont des leaders conditionnels et qui conditionnent la base.
Puissant César, les camarades et moi on vient de discuter et on trouve que notre catégorie de travailleurs est vraiment défavorisée. Alors à partir de maintenant, on veut un statut du gladiateur voilà. Avec des avantages sociaux et fiscaux. Et tant qu'on les aura pas, on fera grève, hein les gars ?
Ils sont sonnés, ma parole. Reprenez le combat.
Il va vous blouser, demande des accords écrits.
On veut des accords écrits, César.
Et que le consul rencontre votre représentant syndical.
Et que le consul rencontre notre représentant syndical.
Ah oui. Et qui c'est votre représentant syndical ?
Les camarades et moi, on a démocratiquement élu Pénur Marcel.
Pénur Marcel, né, il va me rendre fou, hein, ce petit gros. Ah, oh, j'en ai marre.
Martin Cellier et Frédéric Martin ont préparé cette émission à la technique Arnaud Caillet, la réalisation Audrey Ripouille. Alors, reprenons le débat avec vous, Mathieu Vidard.
Oui, Jean, bonjour. Dans un instant, au menu du club, fake news, évolution, invention et coraux. Voilà, éclectisme.